Chapitre 58. Sur ces entrefaites arrive au camp la nouvelle d'une victoire navale. On se rappelle les 12 galères que César a fait construire à Arles. Elles bloquent le port de Marseille sous le commandement de Decimus Brutus. Mais Domitius en avait mis 17 en état, dont 11 couvertes, plus une dizaine de barques. On charge les barques d'archers et de montagnards. La garnison monte en partie sur les galères, et l'on s'en vient droit et avec un bon vent attaquer les 12 galères de César à l'ancre près de l'île où est aujourd'hui le Lazaret. Par bonheur, les 12 galères de César étaient chargées de soldats d'élite et d'officiers aguerris qui s'étaient offerts volontairement à faire le siège. Le combat fut long et acharné. Les montagnards faisaient merveille. Dans tous les pays du monde, les montagnards, ces hommes rudes, accoutumés à gravir et à descendre les inégalités de l'écorce de la terre, partout les montagnards sont d'excellents soldats. Voyez, Suisses, Tyroliens, Dalmates, Albanais, gens du Caucase, de l'Auvergne, des Pyrénées. Il n'y avait pas jusqu'aux esclaves de Domitius, à qui leur maître avait promis leur liberté, qui ne combattissent comme des héros. Le grand désavantage de la flotte de César, c'est que, bâtie avec du bois vert, elle était lourde et manœuvrée difficilement. D'autant plus difficilement qu'elle était montée, non pas par des matelots, mais par des soldats qui ne connaissaient même pas les plus simples termes de marine. Les vaisseaux ennemis, au contraire, étaient agiles comme des oiseaux de mer. Ils étaient conduits par des pilotes habiles, manœuvrés par les premiers marins du monde. Ils évitaient le choc des pesantes galères de César, tournaient autour d'elles, longeaient leurs flancs et brisaient, en passant, leurs rames. Il est vrai que, de temps en temps, on en accrochait bien quelqu'une. Alors le combat devenait franc de part et d'autre. Les montagnards phocéens, les esclaves de Domitius, tout cela rivalisait de courage avec les soldats de César. Cependant, une fois accrochée, la galère ennemie pouvait se regarder comme prise, c'était une question de temps. Les soldats de César sautaient dessus, combattaient corps à corps et forçaient les équipages ennemis de se jeter à la mer. Ils finirent donc par faire un grand carnage de l'armée opposante, lui prirent ou lui coulèrent bas 9 galères et chassèrent le reste dans le port. Cette fois, la victoire ne fit pas question. Elle resta sans conteste aux Césariens. Pendant ce temps, les habitants d'Huesca, Osca et de Calahorra, Calaguris, s'étant réunis, décidèrent d'envoyer des députés à César pour rechercher son alliance. L'exemple est contagieux. Voyant ce que faisaient leurs voisins, les gens de Tortose, Tortosa, de Tarragone, Tarraco, et de Barcelone, Barcino, en firent autant. César, comme on le comprend bien, les reçut à merveille. Il leur demanda du fourrage et du blé qu'ils s'empressèrent de lui envoyer sur des bêtes de somme. Il y eut plus, une cohorte recrutée à Tortose et qui servait sous les ordres d'Afranius, sachant l'alliance des gens de son pays avec César, quitta le camp du lieutenant de Pompée pour passer dans celui de son ennemi. 5 grandes villes se trouvèrent ainsi les alliés de César, prêtes à pourvoir à tous ses besoins, et cela juste au moment où l'on apprenait que Pompée n'avait point quitté et ne quitterait point d'Iracium. Dès lors, il était facile de voir l'hésitation et l'étonnement de l'ennemi. Or César, trouvant qu'un pont était un passage trop étroit pour les manœuvres qu'il méditait, résolut de faire un guet. Nous l'avons dit, les travaux de César étaient des travaux de géant. Il fit creuser des fossés de 30 pieds de large chacun, où se déchargeait le lit de la rivière, de sorte que, si haute que fût l'eau, elle baissa de plusieurs pieds. À cette vue, Afranius et Petreius comprirent qu'ils allaient avoir affaire non seulement à toute l'armée de César, mais encore aux 5 villes ses alliés, et ils résolurent de se retirer derrière l'Èbre. Au moment où les 2 lieutenants pompéiens firent ce mouvement de retraite, l'eau était assez basse pour que la cavalerie passât, mais point encore l'infanterie. Voyant que l'ennemi se retirait, César lança sur lui sa cavalerie. Quant à le poursuivre avec l'infanterie, il n'y fallait point songer. Il y avait 5 lieues à faire pour remonter jusqu'au pont, 5 lieues pour redescendre. Pendant ce temps, l'ennemi serait loin. Mais l'infanterie de César se mit à éclater en murmures. Des collines qui bordent la rivière, elles voyaient la retraite de l'ennemi, les escarmouches de son arrière-garde avec la cavalerie césarienne, et elle criait à ses officiers « Dites à César de nous laisser passer au même endroit que la cavalerie. Puisque la cavalerie y a passé, nous y passerons certes bien aussi. » Alors César, qui, de son côté, ne demandait pas mieux que de risquer quelque chose sur la foi du hasard, laissa dans le camp les plus faibles avec une légion, mit une ligne de chevaux au-dessus et au-dessous du gué, et s'élança le premier dans cette eau glacée. Toute l'armée passa, ayant de l'eau jusqu'au cou, mais sans perdre un seul homme. Tous ceux qui avaient été entraînés par le courant furent sauvés par la cavalerie qui formait la chaîne. Arrivé sur l'autre rive, César forma ses troupes sur trois colonnes et se mit à la poursuite des Pompéiens. Dès lors, c'est un steeplechase à qui gagnera le passage des montagnes, seule issue pour passer de la province de Lérida dans celle de Saragosse. César fait un détour à travers champs, ravins, collines et montagnes, franchit les rochers où les soldats sont forcés de passer un à un en déposant leurs armes, en marchant sur leurs mains et reprenant leurs armes ensuite. Enfin, quand Afranius arrive au passage, il les trouve gardés. Alors commence une lutte terrible. Les soldats de César comprennent que leurs ennemis sont en leur pouvoir. Pour en finir d'un coup, ils veulent les exterminer. Mais César s'apitoie sur tant de braves gens qui vont mourir pour garder leur parole engagée. Il se contente de les envelopper, de tirer autour d'eux des lignes de circonvallation, de les affamer. Il peut les détruire, il les laisse vivre. Il lui faut des amis, non des victimes. Les soldats ennemis reconnaissent son intention. Des pourparlers s'établissent entre les soldats de César et ceux de Pompée. Les bas officiers s'en mêlent. Ceux de Pompée avouent qu'ils doivent la vie à César, que depuis longtemps, si César voulait, il n'existerait plus. Ils demandent s'ils peuvent se fier à sa parole, et sur l'assurance qui leur en est donnée, ils dépêchent leurs centurions à César. Alors on croit la paix faite. Césariens et Pompéiens se mêlent, se serrent la main, s'embrassent. Les soldats de Pompée emmènent ceux de César sous leur tente, les soldats de César en font autant de ceux de Pompée. Quand, tout à coup, Afranius et Petreius apprennent ce qui se passe, prennent une garde espagnole dont ils sont sûrs, tombent sur les soldats romains qui sont dans leur camp et les égorgent, à l'exception de ceux que leurs soldats cachent eux-mêmes et font évader dans la nuit. César apprend ce carnage, fait de son côté prendre les soldats pompéiens et, sans leur faire aucun mal, aucune menace même, les renvoie à Afranius. Ce sont autant d'apôtres qu'il aura dans le camp ennemi. Cependant, ni Afranius ni Petreius ne peuvent pousser plus avant. Ils prennent la résolution de revenir à Lérida et se remettent en marche. Mais César les suit, les harcèle avec sa cavalerie, les affame avec ses coureurs. Il tue leurs bêtes de somme, qu'ils ne peuvent plus nourrir, et les mange, puis se remettent en route. César, par une marche habile, les accule dans une mauvaise position. Il faut combattre. Les lieutenants préfèrent un siège à une bataille. Ils se fortifient. César les enveloppe alors par un de ces terribles fossés dont ses légions ont l'habitude de sillonner le sol. Afranius et Petreius peuvent calculer, en mangeant leurs chevaux comme ils ont mangé leurs mules, combien il leur reste de jours avant de mourir de faim. Enfin, ils demandent à parlementer, s'avouent vaincus, et supplient César de ne pas abuser de la victoire. César fait grâce à tout le monde, n'impose à ses ennemis d'autres conditions que celle de quitter la province et de licencier les troupes. On discute sur l'époque du licenciement. Mais alors, les soldats se mêlent de la négociation. « tout de suite » crie-t-il de tous côtés. César, pour faciliter l'accommodement, paiera l'arriéré de la solde due aux soldats de Pompée. Puis il permet à chaque homme, soldat ou officier, de reprendre dans son camp, à lui, César, tout ce qu'il a perdu de précieux dans la campagne. César indemnisera ses soldats. Dès lors, il n'y a plus de discussion. La voix des soldats couvre celle des chefs. On se fiera à César, puisque César est plus généreux qu'on ne lui demandait de l'être. Ceux qui veulent rester avec César restent avec lui. Ceux qui veulent se retirer se retirent. De son côté, Varron, se voyant seul contre une armée trois fois forte comme la sienne, songe à ouvrir des pourparlers avec César. D'ailleurs, la province qu'il commande se soulève contre lui. Les villes dans lesquelles il veut entrer lui ferment leurs portes. Une de ses légions l'abandonne. Il écrit qu'il est prêt à faire sa soumission. César va au-devant de lui jusqu'à Cordoue, reçoit de ses mains un état de la province, des vaisseaux, des munitions et de l'argent qu'elle renferme, se fait donner l'argent, indemnise les citoyens des pertes qu'ils ont subies et des contributions qu'on a levées sur eux, rembourse tout le monde jusqu'à Hercule, dont on avait enlevé le trésor. Et là, à Cadix, retrouve cette même statue au pied de laquelle, 15 ans auparavant, il pleurait parce qu'il n'avait rien fait à l'âge où Alexandre avait conquis le monde. La guerre d'Espagne est terminée, César s'embarque à Cadix sur les vaisseaux de Varron, arrive par mer à Tarragone, y trouve les députés d'une grande quantité de villes espagnoles, leur accorde tout ce que ces députés lui demandent, à quelques-unes, même plus qu'elles ne demandaient. Et par terre, se rend de là à Narbonne et de Narbonne à Marseille. Là, il apprend qu'à Rome, en son absence, sur la proposition de Lépidus, il a été nommé dictateur.